RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Si vous voulez prendre la parole avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, c'est pas compliqué, c'est le 32-16 qui est à votre disposition. Avec Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, Charles Consigny, l'avocat, et Flora Ghebali, l'entrepreneur dans la transition écologique. On attaque la deuxième heure des GG, la première est déjà disponible en podcast. Les podcasts, c'est la session de rattrapage, c'est sur l'appli RMC. Et vous avez aussi toutes les petites discussions qu'on peut avoir pendant la pub. Et puis là, avec Olivier et Mourad Boudjela, on se remémorait l'humour d'une autre époque. Coluche, les nuls notamment, et des sketchs qui nous faisaient nous tordre de rire, mais qui étaient écrits. Et il y avait très peu de gros mots et d'insultes à l'époque dans ces sketchs.
Ce n'était pas agressif. C'est ça qui a changé.
Dans la deuxième heure des GG, de quoi va-t-on parler? On va parler des violences urbaines. Je ne veux pas payer pour ces cassos. C'est ce que dit Karine Lemarchand, l'animatrice vedette d'M6. Le dernier jour pour déclarer ses revenus. Est-ce que c'est devenu insupportable de payer ses impôts? En attendant, on va regarder, remarquez, c'est peut-être lié aussi, hein, le trafic de stupes du côté de Grenoble. On passe les offres d'emploi pour recruter des dealers ou des guetteurs directement en l'écrivant sur les murs. €300 par jour pour un vendeur, €150 pour un guetteur. Il y a de l'emploi, des offres d'emploi du côté de Grenoble.
Oui, le quartier concerné est situé en plein centre-ville de Grenoble. C'est un lieu malheureusement connu pour être l'un des points de deal de la ville. Il y a malheureusement aussi des règlements de compte. Dernièrement, un homme de 27 ans a trouvé la mort après des tirs. Un jeune de 15 ans avait été tué par balle il y a 2 ans ici même. Et donc maintenant, il y a carrément des offres d'emploi inscrites sur les murs. On peut y lire qu'on recherche par exemple un vendeur, €300 la journée, on cherche des guetteurs, on recrute en fait des petites mains, et pour le faire, et peut-être parce que c'est efficace, on l'écrit directement sur les murs, c'est affiché, donc on regarde tous, les habitants du quartier découvrent cela, et cette curieuse campagne de recrutement montre la banalisation finalement du trafic de drogue. On ne se cache plus et on peut recruter, c'est France Travail des dealers sur les murs.
32-16 pour en parler avec les yeux, avec les grandes gueules, Charles.
Est-ce qu'on est surpris? Les dealers, ça fait longtemps. Les narcotrafiquants, ça fait longtemps qu'ils s'installent dans la société, qu'ils rendent des services, qu'ils ont pignon sur rue.
Ce sont des entreprises, finalement, maintenant.
Qu'ils ont des chaînes Telegram auxquelles les gens s'abonnent, qu'ils tiennent au courant leurs clients des dernières nouveautés, des dernières réductions, des temps de livraison qui se sont améliorés.
Les tendances du moment.
Voilà.
Donc les nouveaux produits qui sont arrivés.
C'est une espèce de...
Oui, mais alors du coup, on l'accepte finalement. Parce que tu dis, est-ce que ça nous étonne? On est dans la fatalité.
Moi, je dis pas qu'il faut l'accepter, mais on a démissionné sur la question des quartiers difficiles, etc. Pas du narcotrafic, parce que les policiers font ce qu'ils peuvent, mais ça prend une ampleur telle. Je lisais là, mais je crois que je le lisais dans le livre du jeune Glucksmann,
que
certains douaniers, maintenant, quand ils ouvrent un caisson dans lequel ils suspectent la présence de drogue, se retrouvent face à une caméra et un message enregistré qui leur dit « Maintenant, nous avons vos têtes, nous saurons vous retrouver ». Donc, les narcotrafiquants ont des moyens qui sont inouïs. Il y a énormément de corruption. Donc moi, je pense qu'on n'a pas, en réalité, on ne prend pas le sujet vraiment, puisque, je le dis souvent, il y a une impunité en même temps pour les consommateurs. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à endiguer le narcotrafic si on laisse l'impunité pour les consommateurs. Bien sûr. Il faut qu'on choisisse.
Flora?
Autant il y a plein de sujets de société sur lesquels je trouve qu'on a toutes les solutions, mais que les politiques ne les mettent pas en œuvre, et je ne comprends pas pourquoi c'est bloqué alors qu'on sait ce qu'on doit faire. Autant sur la question du narcotrafic, j'ai pas entendu de bonnes solutions vraiment efficaces, et j'ai l'impression que c'est un peu comme sur la fiscalité. Déjà, ça se joue à l'échelle internationale, ça se joue pas tellement à l'échelle nationale. La mondialisation est malheureuse sur les drogues également. Ensuite, je sais pas trop comment on l'endigue à l'échelle d'un quartier. Un des débats de la présidentielle qui est encore un terrain vague, c'est qu'est-ce qu'on a à dire sur les narcotrafics, qu'est-ce que les politique propose. Par exemple, Bruno Retailleau, je l'ai entendu récemment sur la castration chimique pour les violeurs d'enfants. Pourquoi pas? C'est une solution, pourquoi pas, intéressante. Je l'ai pas entendu là-dessus. Raphaël Glucksmann, j'ai lu dans son livre que il fallait endiguer absolument les narcotrafics, mais il m'a pas dit comment.
La solution, c'est peut-être quand même de pénaliser le consommateur.
Donc
c'est déjà le cas.
C'est ce que je dis. C'est ce que je défends.
Le Rassemblement national qui nous promet la sécurité toute la journée, je les ai pas entendus nous dire comment. J'ai pas vraiment d'idée moi non plus.
Moi je pense aux jeunes qui voient ça et qui voient finalement 300 euros la
journée. Net d'impôt. Hein.
Non mais 300 euros la journée. Non mais comment tu vas lutter contre ça et dire aux jeunes, ben non, reste à l'école, travaille, t'auras un boulot, etc. C'est compliqué parce que là, t'as une concurrence terrible.
C'est vrai, j'ai un neveu qui cherche un job d'été, il m'a dit, mais moi je veux gagner 2000 euros par mois. Je lui ai dit, t'es mignon, t'as 17 ans, t'as aucune qualification.
Quand t'es serveur, tu peux gagner ça avec pour boire.
Hein. Il faut travailler beaucoup, charbonner.
C'est difficile parce que les mineurs, ils sont pas tellement employés.
Et je lui dis, mais t'as des exigences. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ont des exigences tout de suite.
J'ai travaillé à 16 ans comme serveur à Monaco.
Oui,
à Monaco, c'est plus facile.
Eh bien, les gens vont dire, oui, mais t'as 17 ans, tu dis 300 euros par jour.
T'as 9000 euros par mois.
Juste pour guetter.
Ah oui, pour ne rien faire, bien sûr. Et puis derrière, c'est l'impunité.
C'est implacable.
C'est merveilleux parce que
tu t'assois sur une chaise à l'entrée de la cité et tu nous préviens quand les flics arrivent.
C'est l'impunité de tous les côtés. Le consommateur est impuni et le guetteur est impuni aussi.
Après, c'est difficile de punir un guetteur puisque, comme le dit Alain, il fait rien.
Il est assis.
T'es assis, tu cries police, ou je sais pas ce que tu cries.
Et tu pars en courant.
Ou t'es là, tu
dis. Mourad.
Mourad ou Djellal.
Déjà, qu'est-ce qu'on a effacé les messages tout de suite? C'est pour savoir.
Combien tu payes tes guetteurs, toi, Mourad?
Un petit peu moins cher. Voilà.
Mais l'exploitation.
Mais j'ai pas les meilleurs.
Qu'est-ce que tu en dis?
Ce que je dis, que je répète aux grandes gueules, je veux dire, ces chiffres nous démontrent d'abord une première chose, c'est que c'est du business. On a une offre et une demande. Et la politique aujourd'hui dans notre pays, ça a toujours été d'attaquer l'offre et de sanctionner l'offre. Alors que moi, je pense qu'il faut sanctionner la demande. Et ça démontre aussi l'immensité de la demande, le pouvoir d'achat de la demande à travers les chiffres qu'on voit qui sont hallucinants, 300 euros par jour, ce qui prouve que c'est une clientèle qui a les moyens et qui est multiple. Parce que pour proposer 300 euros par jour, il faut en vendre du cannabis ou de la coke. Voilà, donc ça veut dire que la clientèle est multiple.
Ça montre le business que
ça montre l'immensité du business. Donc c'est bien sur la demande qu'il faut taper, qu'il faut sanctionner, parce que demain matin, si leur chiffre d'affaires il passe de 10 patates à une patate, c'est réglé. Le truc est terminé. Et juste, je termine sur une chose. Et le deuxième problème, c'est qu'on est dans une société consumériste à outrance et que on a affaire à des gamins qui aujourd'hui. Leur seule façon d'être un acteur de la société consumériste, c'est ça. Parce que si c'est pas avec les 1350 ou 80 euros du SMIC qu'ils vont pouvoir être un acteur de la société consumériste. Ils se sont mis dans des habitudes de consommateurs grâce à la drogue, un niveau de vie qu'ils n'auront jamais, jamais de façon honnête, si j'ose dire. Et je sais pas comment on va solutionner ça. Je pense que tous les politiques qui nous apportent des solutions, sont des bonimenteurs. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. Après, il y a peut-être la solution Trump, sur les bateaux qui passent de la Colombie à Miami, il envoie un missile. Bon, je sais pas si c'est. Oui, c'est ce qu'il fait. Oui, oui.
Il y a un acteur qui propose des solutions, c'est Amine Kessassi, adjoint à la mairie de Marseille et victime dans sa chair du narcotrafic, puisqu'il en a perdu deux frères. Et lui, il propose de légaliser le cannabis, et je pense qu'il a raison.
C'est une solution.
Parce qu'en fait, ça permet se concentrer sur les vrais problèmes, à savoir la vente de drogue dure. Aujourd'hui, le cannabis, est-ce plus dangereux que l'alcool? Je ne sais pas. Est-ce plus dangereux que les antidépresseurs consommés massivement par les Français? Je crois qu'on est le premier consommateur européen, je ne sais pas. En revanche, ce qui est très grave, c'est le cannabis consommé par les mineurs, parce qu'effectivement, quand on a le cerveau qui n'est pas fini, c'est très dangereux. Et les drogues dures qui sont aujourd'hui en vente. Il faut écouter Mathieu Delormeau qui en ce moment sort un livre sur le sujet. Il dit qu'il a fait une prise de 3 MMC et que ça y est, il était complètement addict et que pendant 2 ans. Donc, le sujet, c'est 1, légaliser le cannabis, 2, sanctionner, pénaliser énormément les consommateurs de drogues dures, cocaïne, 3 MMC, puisqu'on sait que c'est des gens qui sont malades, qui se ruinent, et donc faut essayer pas de faire éviter la première
prise. Pas forcément
qui
se ruinent, hein. C'est une clientèle de haut niveau.
Bah, y a
ne rêvons pas,
y a
c'est une clientèle de haut niveau.
Écoute Mathieu Delormeau, il explique que dans son centre de désintoxication, il y avait toutes les classes sociales, tous les âges, toutes les catégories. Donc il y a de tout. Et je pense qu'on ferait bien d'écouter Amine Kessassi, à qui je rends hommage sur cette question.
On a Florian qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Florian.
Oui, bonjour.
Habitant centre-ville de Grenoble, question toute bête en tant que riverain, vous les avez déjà vus, ces offres d'emploi ou pas?
Ouais, bah écoutez, hein, comme vous l'avez dit, hein, c'est à l'hypercentre, donc effectivement la cité, on la côtoie, on la voit et on voit ce qui se passe, on voit ce qui gravite, quoi.
Ça veut dire quoi, on voit ce qui se passe tous les jours, dites-moi.
Bah écoutez, ça va être redondant ce que je vais dire, mais on voit le trafic qui continue et qui s'agrandit, et c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Mais après, je rejoins ce que Mourad a dit, dans le sens où, au niveau des politiques, aujourd'hui, on a une maire qui est fraîchement élue, qui est hors sol, et quand on parle du sujet de la sécurité, elle va nous dire, bah, écoutez, c'est pas de mon ressort, c'est le ministère de l'Intérieur. Elle, ce qu'elle veut, c'est que les Grenoblois puissent se baigner dans l'Isère. Donc en fait on a des attentes qui sont différentes entre ce qu'elle veut faire et
la réalité.
Nous on attend la réalité des choses, quoi.
Mais c'est devenu invivable au quotidien, vraiment.
C'est devenu de pire en pire. La semaine dernière, je suis allé manger au restaurant avec mon épouse et en étant rentré le soir vers minuit, bah on serre les fesses, on rase un peu les murs, quoi.
Bien sûr.
Parce que et puis voilà, quoi.
Le message au-delà des 300 euros inscrits sur le mur, ces gens-là crachent à la gueule des policiers. Ça veut dire que ça donne l'impression dans une ville qu'on n'est pas protégé.
On est à la maison.
Actuellement, on se permet de cracher sur la gueule des policiers, ça veut dire que les policiers n'ont plus de pouvoir dans la ville.
Exactement, exactement. Et nous, on fait le tampon. On fait le tampon entre ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe à côté, et voilà quoi.
Ouais. Alors Florian, restez avec nous parce qu'on a un autre coup de fil qui vient de Grenoble.
C'est mieux payé qu'au GG. Hein.
De Raymond. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est moins risqué.
Vous avez entendu Florian dit on est laissé à l'abandon. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors d'abord, complètement, je suis complètement d'accord avec lui. Grenoble, c'est une ville qui se dépeuple parce que tout le monde a peur que ça soit le jour ou la nuit. Les boutiques ferment. Ils ferment à cause de ça, parce qu'on ne peut plus se garer, parce qu'on ne peut plus y aller, parce qu'on est toujours importuné. Moi, je bénévolement, une fois par semaine, je bosse pour le SAMU social. Donc, je fais la maraude. Donc, pour aller à la maraude, je prends ma voiture et je vais me garer à un endroit sur un parking public, non payant la nuit. Et ben, pour rentrer dans ce parking, il y a un gars qui est assis sur un fauteuil et qui me demande ce que je veux. Et quand je lui dis je veux rien acheter, il fait le tour de la voiture pour savoir je suis pas une voiture banalisée, une voiture de flic. Ça c'est une chose et ça provient de l'ancienne municipalité et comme la municipalité actuelle c'est le prolongement de l'ancienne, il n'y a aucune raison que ça change. Mais c'est de pire en pire. C'est écrit sur les murs, c'est dans les boîtes aux lettres. Moi j'ai une proposition. Alors elle est complètement farfelue. L'État dit puisque c'est simple, on va prendre l'exemple qu'un gramme d'héroïne, ça vaut 40 euros. L'État dit, maintenant, c'est moi qui vais le vendre. Je le vends à 10 euros dans des boutiques, exactement comme dans comme dans le tabac. J'ai la main sur le... Comme ça, je sais qui en prend, je sais qui se drogue. Et les 30 euros entre les 40 qui vendent et les 10 que moi, État, je vends, ne vont pas dans un
donc,
marché.
C'est pas stupide, parce que le business existe. Voilà. Et on n'arrivera pas à l'endiguer. Alors, soit on le contrôle, soit on le laisse contrôler par d'autres.
Je suis sûr que vous augmenterez la consommation.
Voilà. Après, il est vrai que la Cour des comptes se positionne sur le taux de TVA.
Vous augmenterez la consommation de cannabis
non,
dans le pays si vous légalisez.
Non, parce que
c'est plus facile d'en avoir. Si.
Mais ça a toujours été tellement facile. Moi, quand j'étais au collège, il n'y avait même pas. Quand j'étais au collège.
S'il y a des boutiques qui en vendent, ça serait quand même plus facile.
Excusez-moi, mais quand j'étais au collège, il n'y avait pas encore ni Snap ni Telegram. Il y avait toujours un dealer à Langres où il demandait ce qu'on voulait à partir de la 5e.
On ne peut pas communiquer sur les méfaits de la consommation.
mentir, en fait.
On ne peut pas communiquer sur les méfaits de la consommation de cannabis parce que ça, c'est censé ne pas exister. Regardez l'impact des campagnes de communication sur l'alcool et sur la cigarette. Bah ça oui. a plutôt fait réduire
et
la consommation.
Et par ailleurs, en Espagne...
Peut-être que ça aurait le même effet sur les drogues.
En Espagne...
Comment les Américains, ils ont fait pour l'alcool, pour les potlagueurs?
On n'a jamais eu autant bu qu'à l'époque de la prohibition aux
États-Unis. En Espagne, le cannabis est légal et par contre, il faut être inscrit avec sa pièce d'identité dans un cercle pour avoir accès. Et si vous parrainez un mineur, vous vous faites radier.
Il n'y a plus de narcotrafic en Espagne.
Excusez-moi, si vous êtes un majeur qui consomme du cannabis, vous avez le droit. Si vous parrainez un mineur ou vous en donnez un mineur, vous êtes radié à vie de tous les clubs. Donc vous n'avez aucun intérêt à le faire. Donc quand vous êtes consommateur, vous faites en sorte que les mineurs ou
mais moi, je voudrais savoir dans les pays où
c'est le meilleur moyen pour protéger les mineurs.
Je voudrais savoir, dans les pays où on a dépénalisé le cannabis, est-ce que le narcotrafic a chuté? Ben, je suis pas sûr de la réponse. Parce que je comprends bien votre histoire, c'est pour que ça n'apparte, que ce soit plus les méchants qui s'occupent de ce trafic, ben, ça serait l'État qui prendra en main l'économie du cannabis. Ben, je suis pas sûr que l'économie.
En tout cas, le business a chuté.
Que nationaliser l'économie du cannabis mette un terme au trafic parallèle.
Olivier, le business a chuté parce que le cannabis représente une part importante du business. Donc, forcément, le business a chuté et est moins rémunérateur pour tous ces gens-là.
Merci à Florian, merci à Raymond d'avoir été avec nous. Est-ce que les dealers qui affichent les
300 euros par jour,
qui affichent les offres d'emploi et les salaires, est-ce qu'ils sont en roue libre? Ben oui, ils sont en roue libre. 100%.
100%, c'est, je crois que c'est jamais arrivé.
Il y en a pas eu beaucoup. Quoique ces temps-ci, si, ça, de plus en plus, c'est une sorte de radicalité. Dans les GG, 10h20, les impôts, est-ce que c'est devenu insupportable de les déclarer?
On va faire du 100% là aussi.
C'est au 32-16 qu'on va... Bah, tiens,
ça dépend si tu les payes.
Est-ce qu'on va faire les 100%? T'as raison.
Back to back. Tout le monde n'en paye pas l'impôt sur le revenu.
Venez en discuter avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les grandes gueules avec vous, bien sûr, en direct sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec Charles Consigny, Mourad Boudjelal et avec Flora Guebali. Et si nous parlions de nos revenus, de nos impôts? Tout le monde aura reconnu la musique du film Psycho d'Alfred Hitchcock.
Comment ? Ça dit Psycho.
Psychose, pardon, c'est Psycho le titre anglais. Ce jeudi soir à minuit, 23h59, terminée la déclaration de revenus. Ce sera la fin de la campagne. Si vous déclarez dans les 30 jours, vous prendrez 10% en plus.
Alors, tout le monde doit déclarer ses revenus, mais quand même, précisons les choses, tout le monde ne paie pas l'impôt sur le revenu. Et c'est même moitié moins que si on prend par exemple tous les foyers fiscaux, 41 millions, c'est moins de 20 millions de foyers qui ont payé un impôt sur le revenu en 2024. Donc ça fait en gros 47% des foyers fiscaux. Donc il y a 53% qui n'ont pas payé d'impôt. Et puis l'impôt sur le revenu est très concentré. J'ai envie de dire, ce sont toujours les mêmes qui payent, puisque ça c'est les statistiques officielles. Les 10% des foyers fiscaux les plus aisés acquittent environ 75% de l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, finalement, c'est toujours payé par les mêmes, des gens qui ont de l'argent. D'ailleurs, ça tord le cou à une idée reçue. Oui, ceux qui ont de l'argent ne payent pas d'impôt. Bah si, ils payent un peu pour tout le monde. C'est un impôt qui est de moins en moins dégressif, il faudrait réformer, que plus de gens le payent. Et en tout cas, c'est aussi un impôt qu'on paye chaque année. On n'a pas le choix, en se demandant, mais pourquoi ensuite, tout au long de l'année, on nous explique qu'il n'y a plus de moyens pour la justice, la police, on n'arrive pas à recruter le prof, etc. Donc, est-ce que le consentement fiscal, maintenant, ça n'existe plus?
Est-ce que c'est insupportable de déclarer ses revenus? 32-16, Flora?
Pourquoi? Moi, c'est toujours les mêmes qui payent, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent. Enfin, cette logique, elle n'a pas de sens, puisque l'impôt, il est progressif par rapport à nos revenus.
Il n'est pas progressif. Donc, il est de moins en moins progressif. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'exemptions fiscales, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis de l'impôt sur le revenu, qui pourraient s'en acquitter. On ne leur demande pas de payer 30 000 euros d'impôt.
Il y a 15% des Français qui n'ont pas à manger jusqu'à la fin du mois.
Non, on ne parle pas de cela. C'est des salariés, des gens qui.
Mais non, on parle de la moitié.
La faute de ceux qui gagnent.
J'ai pas dit que c'était de la faute de ceux qui gagnent. J'ai dit que le consentement à l'impôt, enfin l'impôt, il est progressif. On sait très bien que plus on gagne, plus on paye. C'est quand même normal pour faire se tenir un système. Ce qui est plus étonnant, c'est pour moi à quel point le système est complexe. Et je pense que on va pas s'en sortir avec autant de niches fiscales. Vous vous souvenez au moment de la réforme des retraites, on découvrait des niches
normal
fiscales
que 53%
un peu
des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu.
Mais en fait, oui, je trouve ça totalement normal puisque c'est 53% des Français qui sont en dessous du revenu médian. Donc en fait, 50% à minimum, enfin qui sont en dessous du revenu médian. Donc je trouve ça normal que on paye
même quelques dizaines d'euros pour participer à la. Parce que le problème c'est que ces Français-là bénéficient ensuite.
Mais en fait, ces Français-là, ils contribuent à chaque fois qu'ils consomment puisqu'ils payent la TVA qui est à 20%.
Oui, mais tout le monde ça.
Oui, bah tout le monde. Mais donc en fait, c'est normal qu'on contribue en fonction de ses moyens. Ça, c'est vraiment logique. En revanche, ce qui n'est pas logique, c'est la complexité du système et à quel point on ne s'en sorte pas déjà pour calculer, pour comprendre, pour faire sa déclaration. Bon, aujourd'hui, les salariés, ils sont imposés à la source, mais il y a de plus en plus de travailleurs indépendants qui ont des déclarations à faire qui sont pas possibles. Pareil pour les entreprises. Et je pense qu'il faudrait simplifier ce système.
Mouad Boudjelal.
Encore trois.
Encore trois, quoi?
Trois déclarations. Et je me casse.
Ah oui, voilà.
C'est aussi simple que ça.
Trois ans, tu veux dire?
Ouais, je me suis dit, ouais, encore trois à faire. Et puis c'est fini. On
pourquoi
ira.
Tu te casses?
Parce qu'il y a un moment, ça devient confiscatoire. Ça devient aussi agressif. Ça devient omniprésent. Ça devient pas. Tu as dit tout à l'heure, il y a les gens qui gagnent beaucoup. Mais c'est, oui, il y a des gens qui ont gagné beaucoup, mais c'est aussi pas la même vie. C'est une vie de sacrifice. On est dans un pays où malheureusement on est plus taxé si on crée de l'emploi que si on fait de la bourse et donc c'est ça surtout qui est insupportable et on ne mesure pas à côté tous les sacrifices dans une vie et j'estime qu'aujourd'hui ça devient hors norme et qu'en contrepartie les prestations qu'on a à côté sont ridicules. On a l'addition d'un 3 étoiles pour le résultat d'un routier. Il y a d'excellents routiers, cela dit. Donc, et ça, c'est pas possible. Si au moins, moi, personnellement, je pense que je payais pas mal d'impôts dans mes vies, même beaucoup, si au moins j'avais l'impression que mes impôts servaient à réduire la pauvreté, si je voyais moins de gens qui tendent la main dans la rue, par exemple, si j'avais des services qui marchent bien, si je peux me dire, ben, au moins, je contribue à mon pays, et ce serait une fierté. Mais là, j'ai l'impression de contribuer à une oligarchie. Donc, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est de la prostitution. Et comme disait Eddie Mitchell, il pourrait au moins nous faire un bisou avant, quoi. Dans la relation sexuelle, c'est quand même pas plus mal. Oui, j'ai l'impression de financer une oligarchie.
Donc, tu te barres.
Ouais, il m'en reste trois à faire.
Pourquoi trois ans?
Ben, parce que je me suis donné une deadline. Voilà, dans ma tête, je me suis donné une deadline.
D'ici là, ça a baissé.
On verra.
Bah, quel candidat va baisser les impôts? Charles,
c'est vrai, même les candidats à droite ne proposent plus de baisser les impôts. C'est
ils ont tort.
Bien sûr.
Je le proposerai le moment venu.
Oui, je compte beaucoup sur Charles.
Charles, il est temps que tu présentes.
Je pense que Mourad a tout. Oh, 32, on sera mort, 27. Oui. Mourad a tout dit. En plus, ce qui est très frappant, c'est que ce système qui existe au nom de bons sentiments, au fond, de la justice, de la solidarité, du partage, oui, de l'égalité, etc., ne peut fonctionner que par le crime, par le vol. En réalité, c'est du vol. C'est devenu du vol. La manière dont les indépendants sont taxés en France, en réalité, c'est du vol. Quand on prend à quelqu'un les trois quarts de ce qu'il produit, on le vole. La manière dont les artisans sont taxés, dont les cadres sont taxés, il n'y a que les entreprises qui arrivent plus ou moins, à force de mécanismes successifs, elles arrivent plus ou moins à avoir un petit peu d'air, et encore, parce qu'elles payent aussi les charges dès qu'elles versent un salaire, etc. Bon. Donc en réalité, c'est un système que je trouve, moi, presque criminel, au sens où on se fait arnaquer par la puissance publique.
Parce qu'on n'en a pas pour son argent ?
Non, mais parce que déjà, on est obligé, si tu veux, l'État, je trouve, est obligé maintenant de déguiser la façon dont il prend l'argent, c'est-à-dire que on a beaucoup séquencé la chose, beaucoup découpé. Donc il y a l'URSSAF, il y a les cotisations retraite, il y a l'impôt sur le revenu, il y a la TVA, il y a la cotisation ceci, la cotisation cela, l'impôt sur les successions, les impôts sur l'immobilier. on a comme ça un peu, on a fait la démultiplication des impôts, si tu veux. Jésus avait démultiplié les pains, Bercy démultiplie les impôts. Comme ça, on a l'impression que on paye pas tant que ça, mais en fait, si on additionne tout, il y a beaucoup de gens en France qui sont taxés en réalité à 75%.
Avec sous Emmanuel Macron, on a battu le record de prélèvements obligatoires en France.
Et, bien sûr, alors qu'on pensait,
malgré la suppression de la taxe d'habitation,
alors qu'on pensait que ce jeune banquier libéral allégerait un tout petit peu le fardeau. Donc en vrai, c'est du vol et c'est une société en plus. D'abord, très injuste, moi je pense, puisque effectivement, quand vous avez 10% des gens qui payent pour 75% de l'effort des 100%, en fait, c'est injuste. À un moment donné, faut arrêter.
Et c'est du harcèlement, moi je.
Et ensuite, en plus d'être injuste et d'être bâti sur le vol, je pense que c'est très contre-productif. Parce que, moi par exemple, je vois bien, à titre personnel, ça a un effet sur moi terriblement décourageant. Mais terriblement décourageant. Je me dis, mais à quoi ça sert de travailler? À quoi ça sert de travailler plus, en fait? À quoi ça sert de faire des efforts si, en fait, le résultat de mes efforts, il m'est volé? Et donc, je pense que ça crée la société. En fait, ce qui est terrible, c'est que ça crée une société où les gens sont démotivés à travailler, démotivés à entreprendre. Et donc, ça crée une société où il y a besoin d'encore plus lever des impôts, puisqu'il faut bien payer quand même le système.
Voilà, c'est terminé. Il y a un côté harcèlement. Dans ma vie, j'ai dû avoir, je pense, sans exagérer, 20, 25 contrôles. Peut-être 30. J'ai tout eu. Des contrôles URSSAF à foison, j'ai jamais eu. Des contrôles fiscaux, contrôle répression des fraudes, ça c'est pour voir si les produits qu'on fabrique sont aux normes. Contrôle parité homme-femme, contrôle loi Macron sur les délais de paiement. J'ai eu des contrôles les 28 juillet, j'ai eu un contrôle le 16 août, j'ai reçu un avis de contrôle. Je veux dire, j'ai eu des contrôles dans des périodes de développement où on avait du boulot jusque là. Et j'ai développé, je créais de l'emploi, j'arrêtais pas. Et il te tombe un contrôle que tu peux pas repousser et qui va t'accaparer, toi et tes comptables, pendant des jours. Parce que moi, chaque fois que j'ai eu un contrôle, mon premier contrôle fiscal, je me souviens, j'étais tout jeune. Et la seule question que j'ai posée à mon comptable, c'est: est-ce que pour être redressé d'1 million d'euros, il faut les avoir gagnés et les avoir cachés? Il me dit pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que par un simple jeu d'écriture, d'erreur d'écriture, tu peux te retrouver devoir 1 million d'euros d'impôts que tu n'as pas gagné. Par une simple contestation des provisions.
C'est un problème peu répandu, mais...
Alors, attends, c'est une angoisse pour les entrepreneurs.
On a Jérôme Artisan dans le Gard.
Et les artisans peuvent être taxés sur de l'argent avant de l'avoir gagné, ou même qu'ils n'ont pas gagné. On peut leur réclamer des sommes alors qu'ils ne les ont pas gagnées.
Justement.
Alors qu'ils n'ont pas fait un euro de chiffre d'affaires.
Justement.
Jérôme Marchis, qui est artisan médecin.
Jérôme Artisan dans le Gard. Bonjour, Jérôme.
Bonjour les GG.
Et bonjour, vous avez bien écouté Charles et Mourad. Vous retrouvez dans ce qu'ils ont dit?
Ah ben 100%. 100%, on est arrivé à un point où en fait, comme on travaille beaucoup, on paye beaucoup. Alors c'est une fierté, quand j'ai démarré, moi je me suis mis en compte à 23 ans, mais c'est une fierté de payer des impôts parce que ça contribue à l'effort du pays, à refaire des routes, à avoir des hôpitaux, à avoir de la police, à avoir de la justice. Avoir beaucoup
ça
de choses,
mais
là, j'en suis arrivé à un point où le consentement de l'impôt devient difficile pour moi. C'est-à-dire que moi, je refuse, j'en ai marre, il n'y a plus rien qui marche. On va à l'hôpital, on attend des heures et des heures pour se faire soigner. Moi, je refuse de payer pour ma mère note, qu'elle ait des notes, avec mes impôts, qu'elle ait des notes au Festival de Cannes. Refuse de payer pour le gros hiérarchique qui doit manger à table.
Non, on n'a dit pas le physique.
Le problème, c'est pas le physique.
Pas de grossophobie.
Mais après le problème c'est le consentement de l'impôt. C'est-à-dire que quand rien ne marche, quand il y a des gabegies partout, quand comme disait Mourad, on se fait contrôler, c'est sans fin. Quand on veut créer quelque chose, travailler.
Mais Jérôme, il y a aussi un modèle social que les Français d'ailleurs défendent dans tous les sondages, qu'il faut financer.
Oui, les 53% qui payent pas l'impôt.
Et comme le modèle social prend beaucoup d'argent et que malheureusement la croissance n'est pas très florissante en ce moment, c'est sûr que les impôts vont pas baisser dans les années qui viennent.
Je suis d'accord avec vous, sauf que les impôts, c'est bien quand c'est productif et que ça sert à quelque chose.
Oui,
là, ça sert à payer, ça sert plus à rien, puisque ça sert à payer de la dette.
C'est
des gens qui
c'est de la dépense de fonctionnement.
Où que vous tournez, vous payez. Vous travaillez, vous payez.
Et le c'est décourageant.
Et mon problème à moi, c'est exactement, oui, c'est ce que disait Charles, c'est décourageant. Mon problème à moi, c'est que moi, je suis pas dans la classe, la petite classe, je suis pas dans la grande classe où les gens peuvent défiscaliser ou partir, ou peut-être Mourad pourrait l'expliquer un peu mieux, mais et ils ont raison de le faire parce qu'on veut pas payer.
Moi, j'ai toujours refusé, voilà. Si mon inspecteur des impôts m'écoute, qu'il sache que je n'ai aucun compte.
En tant qu'artisan, vous avez beaucoup.
Moi, je suis dans la classe moyenne. Ça veut dire que je suis dans la, en pleine cible. Je suis, comme dit Charles Cosini, c'est-à-dire qu'on se fait racketter, quoi. C'est du racket.
Et mais Jérôme, vous avez beaucoup été contrôlé ou pas?
Une fois.
D'accord.
Une fois. Et par contre, j'ai été contrôlé par l'inspection du travail. J'en reviens, mais quand on veut bosser en France, maintenant où il faut travailler pour monter un échafaudage, il faut bientôt passer des brevets pour pouvoir monter un échafaudage, pour monter sur une toiture, ça devient infernal. On est contrôlé sur tout. On peut plus bosser normalement. Je plains les gens. Moi, je travaille dans un petit village. Je plains les gens qui travaillent en ville.
Et puis il y a des côtés injustes. Moi, j'ai eu des redressements qui sont des aberrations. J'ai été redressé, si on a le temps, sur de la. J'étais au tout début de la TVA intracommunautaire. C'est quelque chose que personne ne maîtrisait. Donc j'ai un contrôle là-dessus. Sur une année en cours, on me dit que vous n'avez pas fait votre déclaration de TVA intracommunautaire, ce qui est zéro. C'est-à-dire que je la déclare d'un côté, je la récupère de l'autre. Ça fait zéro. Mais la sanction, c'était que vous ne pouvez pas la récupérer. Et donc, vous tapez un redressement
coup de gueule
sur quelque chose qui devrait vous coûter zéro.
Bon nombre de personnes qui nous suivent, j'imagine. Est-ce que c'est devenu un supplice insupportable de déclarer ces impôts?
On n'est pas à 100%.
Oui, à 76,5%.
Il y en a 53%.
Dans un instant, un autre coup de gueule, celui de l'animatrice Karine Lemarchand. En voiture dans Paris, elle a regardé aux alentours des Champs-Élysées les dégâts après les violences de la semaine dernière. Elle dit ras-le-bol, je n'ai pas à payer pour les cassos et à qu'à leur prélever sur leur compte où vous voulez. C'est pas à moi à payer. Est-ce que vous partagez son coup de gueule? Il est 11h20, tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules.
Je serai
à
Miami avec Mourad.
Sur RMC, RMC Story. Attendez. S'il vous plaît. Flora Guebali, Charles Consigny, Mourad Boutjelal. Oui. Et là, on va parler de Karine Lemarchand et de son coup de gueule. Karine Lemarchand qui se promenait en voiture du côté du centre de Paris, en particulier. Pas loin des Champs-Élysées, là où il y a eu de la casse. Et alors, au fur et à mesure de ses pérégrinations, elle était en voiture, puis elle regardait les dégâts, et là, c'est sorti de manière naturelle.
Je me balade dans Paris, là, je suis passée par les Champs-Élysées, et je me dis, mais en fait, ça ne redescend pas ma colère. Ce qui est sûr, c'est que ces petits cons, quand ils sont contents, ils cassent, et quand ils ne sont pas contents, ils cassent. Donc ça s'appelle les casseurs, tout simplement. Ce serait bien d'ailleurs pour une fois qu'on publie, alors les noms, vous allez nous dire non, on ne peut pas publier les noms, mais qu'on publie des initiales avec les sanctions qu'ils ont eues, tous ces mecs-là. Combien ils ont pris de tôle, combien ils doivent donner de l'argent à la société, parce que qui est-ce qui va payer? C'est encore les assurances, c'est encore les impôts, c'est encore moi. Moi, je n'ai pas à payer pour ces cassos. Les casseurs doivent payer, mais au sens large, ils doivent payer sur leur argent, sur leurs allocs, s'ils ont des allocs, sur leur salaire, sinon, vas-y, à la source, boum, terminé. Ils doivent être fichés et ils doivent faire de la tôle.
Est-ce que vous partagez le coup de gueule de Karine Lemarchand? 32-16 pour en parler avec les jeux, avec les grands gueules, Charles.
D'abord, j'admire son volant rose. Hein, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais elle a le volant de ce qui semble être une Smart.
Une espèce de fourrure rose.
Une fourrure rose sur le volant. Oui, je pense qu'elle a raison. Autant je suis accessible aux explications sociologiques sur le fait que ces jeunes grandissent dans des quartiers difficiles, sur le fait qu'ils sont un peu en rupture avec la société.
Ouais, enfin, il n'y avait pas que ça en comparution immédiate.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends ces arguments qui nous sont servis.
Il n'y avait pas du pauvre petit.
Voilà. Mais en même temps, je pense que l'impunité doit cesser. L'impunité doit cesser. Donc, moi, je l'ai dit, je pense qu'il faut des mandats de dépôt, y compris pour de simples atteintes aux biens, comme on dit, c'est-à-dire une voiture brûlée, un abribus défoncé. Je suis désolé, je ne vois pas pourquoi ça resterait impuni. D'autant plus si on a des tirs de mortier sur les policiers. Là, on est quand même à un stade de gravité
la guerre
supérieure. Donc tout ça, je pense, mérite un passage par la case prison et donc une inversion du système tel qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire payer des indemnités aux familles. Et je le dis, puisque je l'ai déjà dit, moi je pense qu'il faut retirer des passeports. Je suis désolé, je pense que quand on est à ce point-là, oui, je vois Flora qui lève le nez, je pense que quand on est à ce point-là en rupture avec son pays, il y a un moment donné...
Mais alors on devient apatride ?
Je vois, je parle de ceux pour qui c'est possible, c'est-à-dire ceux qui ont une deuxième nationalité. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné serrer la vis. Ça n'est plus possible de composer, de supporter une telle racaillisation de notre pays. Je pense que les Français sont épuisés par ce phénomène.
Flora.
Mais donc la sanction, elle est plus lourde si tu as une deuxième nationalité que si tu en as qu'une.
Oui, c'est pas grave, je l'assume.
C'est
effectivement.
Étonnant.
C'est plus lourd si t'es une deuxième nationalité.
Alors, est-ce que tu partages le coup de gueule de Karine Le Marchand?
Mais qui serait pas d'accord avec ça? C'est insupportable. Et encore pire que les casses. Il y a un sondage qui est sorti qui montre qu'il y a un Français sur deux qui a peur de sortir de chez lui un soir de match ou de grands événements sportifs. En particulier les femmes, évidemment, puisque ça fait peur tous ces hommes sous testostérone qui célèbrent. D'ailleurs, elle a raison, Karine Le Marchand, quand elle dit qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est la même chose. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Emmanuel Macron a pas convoqué le PSG avant le match et fait une vidéo pour dire qu'en cas de victoire ou de défaite, on veut du calme. Parce qu'en fait, à un moment, les footballeurs, ils gagnent des fortunes. Est-ce qu'ils peuvent apaiser le pays?
Mais ils s'appellent au calme. Pardon, mais j'étais au Parc des Princes un samedi soir pour voir le match qui était diffusé sur grand écran. L'ambiance était formidable au sein du parc. Et à la fin, il y a eu un message officiel qui a été diffusé en disant voilà, la fête est belle, etc. Ne la gâchez pas, rentrez chez vous. Donc bien sûr, mais je pense que ce message n'a servi à rien puisque tout de suite en sortant du Parc des Princes, je suis tombé porte de Saint-Cloud sur une bataille rangée, une guérilla urbaine avec des tirs de mortier dans tous les sens, etc. Et c'était le chaos.
Le problème, c'est que c'est pas possible de gâcher toutes nos fêtes comme ça. Et en fait, c'est devenu une revendication politique. C'est devenu l'occasion pour des casseurs. D'ailleurs, on se demande quelle est la revendication. Hein, qu'est-ce qu'ils veulent, à part piller, casser.
Rien.
Exprimer un mécontentement.
La violence est un mode d'expression.
Mais le niveau de violence dans cette société a augmenté partout. Bon, évidemment, sur les réseaux, mais aussi en vrai. Et je pense que ça devient insoutenable.
Est-ce qu'il n'y a pas une culture de la violence aussi chez nous? Est-ce que c'est pas endémique? Parce que ça se reproduit comme à chaque fois. On a beau dire, on ne plus jamais ça, etc. On n'a jamais mis autant de policiers pour un match qui n'avait pas lieu à Paris.
Hein. Ouais,
c'est ça qui est fou. Le match n'avait même pas lieu à Paris. On n'a jamais mis autant de... Bon, mais finalement, ça n'a pas empêché le chaos.
Et nos policiers qui sont malheureusement pas en train de s'occuper
blessés.
Des affaires de violence conjugale. Enfin, ils ont autre chose à faire aussi.
Mourad.
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. On dit souvent que je pense que c'est une question de public et de niveau du public. Moi, j'ai mis 70 000 personnes dans la rue quand j'ai ramené sur Toulon une Coupe d'Europe et un titre de champion de France. Il n'y a pas eu un pot de fleurs cassé. Parce que les règles du rugby sont un peu plus compliquées que les règles du foot. Hein. C'est l'équivalent entre le jeu de dames et le jeu d'échecs.
Tu veux dire c'est une question
de... Je veux dire que le football, malheureusement, c'est un public, une partie, bien sûr.
Il y a des bons. Hein.
Pas. Oui, oui. Mais une partie du public, il attrape les bas de front, quoi.
Tu veux dire que les gens qui aiment le foot sont
partie,
demeurés.
Une partie de les règles
simples.
Avec des règles simples, tu attrapes des gens simplistes. Mmh. Voilà, les règles sont très simples. Le football, c'est tu vas de l'avant et tu essaies de mettre le ballon.
C'est
dans
le sport le plus populaire du monde.
Voilà. Mais après, je pense que le football est un prétexte pour beaucoup. Ce sont des casseurs. Alors sur les dégâts qui sont faits, moi je trouve quand même que les policiers en France, lorsque c'était les gilets jaunes, ils étaient beaucoup plus efficaces. Là, il y a personne d'éborgné, il y a pas de main arrachée.
Il y a un jeune de 13 ans qui a perdu.
Ouais, mais bon, je pense que sur les gilets jaunes, on a su les contenir.
C'est-à-dire qu'il y avait des consignes.
Parce que sur les gilets jaunes, il y avait une vraie peur des politiques sur leur avenir.
Donc là, il y a des consignes, il y a les mollos.
Ben, je pense qu'il y avait des consignes, et puis il y avait aussi l'image de dire attention, regardez bien. Vous avez vu, on est à la limite de la guerre civile. Votez pour nous. Parce que nous, on vous protège. On est là pour vous protéger.
Je crois que ça donne envie de voter.
Je pense que c'est instrumentalisé. Totalement.
Je crois que ça donne envie de voter pour ceux qui sont au pouvoir.
Non, mais ça veut dire qu'on a besoin. Vous avez besoin d'être protégé parce que la guerre civile est pas loin. Je trouve que sur les gilets jaunes, par contre, le problème
c'est
Bardella
qui monte dans
les
sondages.
Sur les gilets jaunes, il fallait protéger le gouvernement. Et là, on y a mis les moyens. On a vraiment mis les moyens et on a tapé comme des malades. On n'a pas tapé là.
Oui, mais Mourad.
Après, alors attends, non, mais Mourad, non, mais sur le dernier argument, là, sur qui va payer. Moi, je suis d'accord avec elle, qui va payer. Mais pourquoi je ne me pose pas la question de qui va payer pour. Pourquoi est-ce que je dois aussi payer pour Nordal, Le Landais et Antol actuellement? Attends, pourquoi je vais payer pour Barrella?
On a un exemple.
Pourquoi, dans l'absolu, pourquoi est-ce qu'on doit payer? Oui, mais pourquoi on doit payer pour ces pourritures?
On a un exemple très concret, celui de Valérie. Valérie, elle est dans l'Isère, elle a vu sa voiture incendiée. Bonjour Valérie.
Bonjour à toute l'équipe.
C'est ce qui vous est arrivé, voiture incendiée, quand c'était Valérie alors?
C'était l'année dernière.
D'accord.
Et
à quel moment, donc, à quelle occasion si je puis dire?
C'était pour la fête de la musique.
La fête de la musique. C'est normal, on brûle une voiture pour la fête de la musique.
Bien sûr, ça va avec, ouais.
C'est logique.
Allumer le feu, quoi.
Allumer le feu, c'est ça.
Et alors, qu'avez-vous fait?
Eh ben en fait, ben évidemment, dépôt de plainte. J'ai eu une certaine chance parce que en fait, les trois mineurs, ils avaient 16 et 17 ans, ont été retrouvés. La police m'a dit tout de suite.
Ils arrivent à brûler des bagnoles.
C'est des multirécidivistes, on les connaît. Voilà.
Et on pourrait faire.
Ne vous dites pas que vous allez pouvoir faire quelque chose. Alors bien évidemment, mon assurance voiture a marché. Et puis moi, à un moment donné, je me suis dit mais non. C'est trop facile. Oui, bah évidemment.
Ah oui.
Je dis bah non, c'est trop facile. Et j'ai pas lâché le morceau. Alors oui, ça m'a coûté encore un petit peu d'argent, mais aujourd'hui, je suis en train de le récupérer. Moi, j'ai pris un huissier. J'ai pris un huissier qui a contacté ces trois familles qui étaient soi-disant non solvables. Et actuellement, ils payent tous les mois. Voilà.
Bravo.
Ils payent. Ils payent une petite somme, mais ils payent tous les mois. Voilà. Parce qu'à un moment donné...
Et ils brûleront plus de voiture, hein.
Ah bah écoutez, là c'est les parents qui payent. C'est les parents qui payent. Ça a bien été notifié d'ailleurs, parce que dans ces cas-là, je deviens je deviens têtu. Le premier mineur, il va avoir 18 ans fin de l'année, ça je le sais. J'ai dit à l'huissier, il se démerde, mais c'est lui qui va prendre la relève de ses parents. Il va assumer jusqu'au bout ses conneries. Donc,
bien joué.
Moi, je fais payer tous les mois à ces trois familles.
D'accord, c'est vous qui avez pris sur vos deniers personnels, qui avez fait la démarche de prendre un huissier avec saisie. Ouais, d'accord.
Oui, c'est moi qui ai fait la démarche parce que je me suis dit à un moment donné, oui, ça va me coûter encore un peu d'argent, mais je ne comprends pas pourquoi à un moment donné.
C'est-à-dire que la justice a prouvé que c'était ces trois mineurs et vous derrière vous avez récupéré avec le dossier judiciaire en disant à l'huissier vous avez porté pour continuer de porter plainte pour avoir le dédommagement.
Elle a perdu de l'argent et du temps parce que ça a dû être long. Mais
ce que je comprends, c'est qu'il y a
une contrainte.
Il y a eu une condamnation de ces personnes à vous verser Valérie une certaine somme d'argent. Et vous avez, vous, simplement voulu, et vous avez très bien fait, suivre l'exécution de ce jugement qui, effectivement, à partir du moment où tu as une décision de justice, l'huissier peut prélever sur les comptes.
Si mais parce que c'était déclaré insolvable. Donc elle a dit, moi, j'ai pas lâché.
Mais insolvable, ça veut pas dire grand-chose. Insolvable, ça veut pas dire que
ah bon,
ça,
dire
ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est pas forcément pour toute la vie que tu es insolvable. La plupart du temps, ce que font les gens... La plupart du temps, les gens se tournent vers une caisse publique, qui s'appelle la CIVI.
Valérie, bravo, félicitations d'avoir donné cet exemple. Peut-être
Moi, je pense qu'il faut radier le PSG pour régler ce problème.
Ne jamais rien lâcher.
Sois pas jaloux.
Il faut les interdire de toute compétition.
Dans un instant, sois pas jaloux de cette belle équipe.
On va voir quelles sont ses solutions face à ces violences. Justement, Raphaël Glucksmann, presque candidat à l'élection présidentielle, sera l'invité des GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.